mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis.
Catherine, je vais te poser une question. Vois-tu des complots partout ?
Pourquoi me poses-tu cette question ?
Parce qu'aujourd'hui, les théories du complot jaillissent de toutes parts et les accusations de complotisme pleuvent.
L'anthropologie de René Girard peut-elle nous aider à comprendre cela ?
Peut-être. Toutes les théories du complot suivent, en dernière analyse, le même schéma. Quelqu'un ou quelques-uns sont les responsables cachés de nos ennuis. Ils les ont créés, sinon à tout le moins les exploitent dans leur strict intérêt. Et bien sûr, au détriment de pratiquement tout le monde. Pour le girardien Durand, la lecture est directe. Il s'agit du mécanisme de désignation d'un bouc émissaire. Comme l'a montré la théorie mimétique, ce mécanisme est porteur de violence et d'injustice, ce qui conduit bien sûr à un jugement défavorable sur les théories du complot. Ces théories trouvent leur source dans notre besoin de comprendre les phénomènes, de leur trouver des causes, d'autant plus s'ils nous sont douloureux, d'autant plus si les comprendre nous donne l'espoir de les éviter. En situation de crise et de danger, ce besoin s'exaspère et nous préférons nous hâter de croire à la culpabilité d'un bouc émissaire, même sans éléments tangibles, plutôt qu'attendre d'avoir élucidé des causes objectives. Léon Festinger y voit une stratégie pour atténuer les dissonances cognitives que les crises engendrent dans notre cerveau, car celui-ci est structurellement incapable de supporter des incohérences. Les théories du complot, en tant que recours à un bouc émissaire, sont un dévoiement de la recherche rationnelle des causes. C'est pourquoi un jugement défavorable quant aux théories du complot doit porter non sur la recherche des causes en elles-mêmes, mais sur ce dévoiement.
Peux-tu nous donner un exemple concret ?
Maintenant que le temps a passé, nous pouvons examiner la crise du coronavirus. Nous le ferons en trois temps. D'abord le virus, ensuite le récit développé à son sujet par les autorités, enfin les décisions prises par les autorités en référence à ce récit. Le virus, il était nouveau. Son origine n'est pas encore vraiment élucidée. Son mode de diffusion était mal connu. Ses effets étaient peu compréhensibles. Tantôt anodin, tantôt redoutable. Il semblait sélectif, les anciens plutôt que les jeunes, les pays développés plutôt que les autres, etc. Le récit. Il fut pétri d'incohérences et de contradictions. Deux jours avant le premier confinement, il fallait aller au théâtre comme d'habitude. Les masques étaient inutiles, voire dangereux. Ils furent ensuite obligatoires. La grande revue médicale, le Lancet, se rétracta de l'étude condamnant l'hydroxychloroquine, mais celle-ci resta interdite de prescription. L'Union européenne acheta 1 million de doses de remdesivir, quelques jours avant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'en déconseille l'emploi. Le ministère publia quotidiennement le nombre de morts, puis le nombre de cas, puis à nouveau le nombre de morts, mais pas tous les jours. Les décisions. Leur intensité fut extraordinaire, au sens strict. Jamais des mesures de confinement totales, y compris pour les bien portants, n'avaient été prises. Privées de leur caractère provisoire, elles étaient en elles-mêmes proprement inacceptables. Elles semblent maintenant sans proportion avec la réalité des effets du virus. Très loin en tout cas de la grippe de Hong Kong de 1967 ou de la grippe espagnole au début du XXe siècle. Face à un pareil tableau, rien d'étonnant à ce que la machine à rechercher les causes se soit mise en route. Et la peur aidant, elle est vite devenue une machine à désigner des boucs émissaires. Et le défilé commença. Le cartel pharmaceutique, la civilisation industrielle, entre parenthèses, elle saccage la planète, alors la planète se venge en envoyant un virus. La Chine, dans sa quête d'affirmation de sa puissance. Les États-Unis, prêts à tout pour préserver leur hégémonie déclinante, le capitalisme néolibéral, l'oligarchie informatique qui veut imposer le transhumanisme, le centralisme si peu démocratique qui déresponsabilise et aboutit à la fuite du virus hors du laboratoire P4, etc. Attention toutefois à ne pas tomber dans un excès symétrique à l'incrimination, car figurer sur une liste de boucs émissaires n'est pas un brevet d'innocence. Gilead, le laboratoire du remdesivir, a réellement vu sa valeur boursière s'envoler à l'époque. Et la Chine revendique toujours le premier rang des grandes puissances. Les grandes sociétés informatiques sont effectivement assoiffées de nos données personnelles, etc., etc. Mais de tout cela, il convient d'établir des parts de responsabilité objectives. Les présomptions, les inférences hasardeuses ou les préjugés ne sont pas de saison.
Peux-tu revenir à Girard ?
Je reviens à Girard, mais en faisant un petit détour par un sociologue américain, Irving Janis, qui proposa en 1972 le concept de « pensée de groupe ». La pensée de groupe apparaît en cas de crise. Elle consiste à privilégier la cohésion de la communauté plutôt qu'une compréhension objective de la situation. Sa caractéristique en est l'unanimité dans le ralliement au récit officiel. Certaines personnes peuvent être convaincues de sa stupidité en leur fort intérieur. Ils s'y rallieront quand même par peur de l'exclusion. Et c'est là le point clé. Quelqu'un contestant le récit de référence est considéré comme un traître et se trouve ostracisé. L'un des symptômes de la pensée de groupe est la présence de gardiens de la pensée qui se chargent de cette besogne d'exclusion, plus ou moins consciemment. Le récit officiel contient la plupart du temps le dogme de sa propre excellence et le dénigrement de ses ennemis réels ou supposés. Et bien entendu, la pensée de groupe est un facteur d'échec puisqu'elle conduit à méconnaître la réalité de la situation. Au moment du coronavirus, les autorités des différents pays ont présenté tous les symptômes de la pensée de groupe. Face à la crise, elles ont proposé un récit de référence. Le virus est terrible, c'est la guerre. Notre système de santé est parfait, mais la menace est telle qu'il faut enfermer tout le monde et arrêter la plupart des activités. Nous ne savons pas jusqu'à quand, il faut attendre le vaccin, etc., etc. Ensuite, les autorités n'ont cessé de répéter qu'elles ont toujours tout bien fait, affirmation de sa propre excellence. Enfin, nous avons eu droit aux gardiens de la pensée. Et précisément ceux qui nous occupent ici, ceux qui brandissaient l'accusation de complotisme. Ils s'en trouvaient un peu partout. Chez les représentants de l'autorité, chez les éditorialistes, au sein des associations, chez les experts, les utilisateurs, dans les réseaux sociaux, etc.
Mais alors, s'agit-il de Girard ou de Janis ?
C'est pareil. Janis ne connaissait pas la pensée de René Girard, mais son concept est parfaitement girardien et même doublement girardien.
Comment cela ?
D'abord, la manifestation la plus immédiate de la pensée de groupe est cette unanimité de façade, ce consensus à tout prix, y compris en contradiction avec les faits. L'unanimité est l'une des formes du mimétisme. La seconde caractéristique girardienne est bien sûr l'expulsion de ceux qui ne partagent pas l'unanimité et qui le disent. Nous voilà donc à nouveau devant un mécanisme de bouc émissaire. Attention cependant, le mécanisme est le même que chez les théoriciens du complot, mais l'objet n'est pas identique. Les théoriciens du complot cherchent des boucs émissaires à la crise elle-même. Les anticomplotistes cherchent à préserver l'unanimité autour du récit officiel de la crise. Un mécanisme identique est employé pour deux objectifs bien différents. Et même carrément opposés, puisque les théoriciens du complot récusent le récit officiel, tandis que les dénonciateurs de complotistes le défendent. D'où le renforcement mutuel que les deux attitudes se procurent l'un à l'autre. Et c'est la rivalité mimétique, aurait dit René Girard.
Encore un exemple, s'il te plaît?
Fin 2021 était sorti un document intitulé « Hold Up » qui remettait en cause le récit officiel du coronavirus. Il fut écarté des plateformes. Ceux qui étaient tentés par l'hypothèse d'un complot ont eu un réflexe tout simple. Si ce film est interdit, c'est qu'il doit révéler des choses réelles et inavouables. Les dénonciateurs de complots ont ainsi obtenu le résultat inverse de ce qu'ils recherchaient. Mais en vérité, ceci n'est pas nouveau. La sociologie a identifié depuis longtemps le phénomène sous le nom d'effet Streisand. Interdire un point de vue stimule au contraire le désir de le connaître, voire l'accrédite. Et là encore, la théorie mimétique intègre ce concept. Le médiateur s'adresse au sujet en disant « Surtout ne désire pas cet objet !» Mais ce faisant, il l'a désigné, et cela suffit précisément pour faire naître le désir. Ainsi suis-je enclin à renvoyer dos à dos théoriciens du complot et accusateurs de complotistes. Tous cherchent à désigner un bouc émissaire, processus d'injustice et de violence. Il empêche d'analyser correctement la situation à laquelle nous sommes confrontés. Les questions pertinentes ne sont plus sur la table. Le vieux réflexe de la victime expiatoire est toujours là. Gardons espoir que nous pouvons faire mieux. René Girard, en révélant ce mécanisme, n'a eu de cesse de nous indiquer le chemin. Renonçons à nos boucs émissaires.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci aux auditeurs. Au revoir, Jean-Louis.
Au revoir, Catherine.